Radio Grand Ciel vous présente la 10e émission de Demain les énergies. Toujours réalisée au téléphone, toujours avec moi au micro, Paolo Davi, et toujours avec Marc au l'autre bout du fil. Bonjour Marc.
Bonjour Paolo, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Donc Marc, nous avons peut-être des nouvelles importantes ce mois-ci pour la rubrique « Quoi de neuf ?»
Oui, absolument, Paolo. Je voulais effectivement revenir sur la dernière note de conjoncture, de prospective de l'Agence internationale de l'énergie et des conséquences qu'en a tirées son directeur général, Fatih Birol.
Ah oui, d'accord. Et en fait, le monde de l'énergie d'aujourd'hui, à la fin peut-être de cette période de pandémie mondiale, quelle va être ?
Eh ben exactement, c'était le sujet, tu as raison, du rapport donc de l'EIA qui montre, comme on s'y attendait, mais maintenant on a des chiffres, que la pandémie a affecté la consommation pétrolière, hein, tout liquide confondu, elle a baissé de 100 à 91 millions de barils par jour entre 2019 et 2020. Mais on montre aussi que ça remonte fortement depuis le début de l'année 2021, que ça pourrait atteindre 96 millions de barils en moyenne cette année, donc. Et surtout s'établir à 103 millions dès 2025. Donc on n'aurait pas atteint le pic en 2019 comme on pensait l'avoir atteint. Ouais. Donc suite à cette prévision, Fatih Birol a émis un communiqué, pour une fois je dirais très agressif, très volontariste, indiquant que les États, les entreprises pétrolières, les banques doivent arrêter et dès à présent tout investissement dans l'exploration et le développement de nouveaux gisements d'énergie fossile, ouais, charbon et pétrole et gaz, et investir massivement le double, il dit, même dans les énergies bas carbone. Alors, bien sûr, ce communiqué a fait l'effet d'une bombe, hein, dans les milieux pétroliers, on en a discuté toute la semaine, car l'EIA est en général beaucoup plus consensuel, policé, tranquille un peu dans ses interventions. Et ce que craignent un peu les compagnies pétrolières dans cette proposition, c'est qu'elle pourrait être la proposition phare de la prochaine COP qui se tiendra en fin d'année, on y reviendra peut-être, à Glasgow. Donc cette proposition d'arrêt immédiat des investissements dans l'exploration et le développement de gisements a fait l'objet de fortes critiques évidemment de l'OPEP et même de quelques gouvernements occidentaux comme le japonais par exemple. Mais elle a aussi reçu de forts soutiens, bien sûr, des organisations écologiques qui s'étaient jamais attendues à avoir un soutien de l'Agence internationale de l'énergie comme cela.
Eh oui, eh bien, dis donc, Marc, un retournement d'alliance, en quelque sorte, à suivre de près, en effet. Dans notre dernière émission, nous avons parlé des énergies renouvelables et notamment de l'énergie éolienne, qui est une énergie intermittente, comme l'énergie solaire, et dont nous allons vous parler dans la suite. L'énergie éolienne connaît un développement assez fort ces dernières années aux États-Unis, en Chine, mais aussi en Europe. En Europe, elle assure à peu près 6,3% du total de l'énergie électrique produite, ce qui la met à la quatrième place après l'hydroélectrique. Je voulais quand même, Marc, souligner un aspect souvent oublié et dont tu avais déjà parlé, et qui concerne les passages au système énergétique bas carbone. Ce sujet concerne bien sûr l'éolien, mais aussi le solaire photovoltaïque, ainsi que les voitures électriques par exemple. Et il concerne les besoins futurs en minerais. En effet, il est clair qu'il faut s'attendre à une augmentation considérable des besoins en nombreuses ressources minérales. Comme le souligne d'ailleurs l'Agence internationale d'énergie, ces besoins des ressources varient selon les filières et selon les technologies employées. Du lithium, du nickel, cobalt, manganèse, graphite pour la construction des batteries, des terres rares pour les aimants permanents des éoliennes et des moteurs de véhicules électriques, cuivre et aluminium pour le déploiement des réseaux électriques. Donc Marc, c'est un sujet très important.
Ah, tout à fait, Paolo. Et selon les données toujours de l'Agence internationale de l'énergie, qui pilote un peu tout ça, pour l'éolien, les quantités de minéraux et de matériaux utilisés varient entre 10 et plus de 15 tonnes par mégawatt pour l'éolien terrestre et l'éolien offshore, encore plus de cuivre pour lui. Mais la comparaison, le solaire voltaïque est lui autour de 7 tonnes par mégawatt, le nucléaire est plutôt à 5 tonnes par mégawatt et le gaz naturel, le plus frugal, ça cette fois-ci est autour d'une tonne par mégawatt seulement.
Oui. Donc tu sais, Marc, moi j'adore les gaz. Donc on constate qu'en fait,
Je vois, tu as raison cette fois-ci.
les éoliennes utilisent 10 à 15 fois plus des minéraux que le gaz. Et ces minéraux ne sont pas forcément tous renouvelables. Donc,
Tout à fait.
toujours selon l'Agence internationale de l'énergie, d'ici à 2040, la demande mondiale de nickel et de cobalt liée à la transition énergétique pourrait être multipliée par 20 environ, et pour le lithium, par plus de 40.
Eh oui, bah, la part des énergies bas carbone hein, dans la demande de minéraux, de métaux, sera loin d'être négligeable. L'AIE estime qu'à l'horizon 2040, 45% du cuivre sera utilisé pour ses seules énergies. Aujourd'hui, on est entre 20 et 25%. Et le nickel ou le cobalt, tu en faisais mention, c'est effectivement encore pire. La part sera de 70% en 2020, c'était 15%. Le lithium, elle dépassera peut-être 90% du lithium exploité dans le monde, ira à ces nouvelles formes d'énergie bas carbone. Aujourd'hui, on est plutôt entre 20 et 30%.
Les ambitions climatiques mondiales, Marc, donc, devront faire face à la disponibilité des minerais critiques indispensables pour concrétiser ces ambitions, ce qui a bien sûr un impact sur la géopolitique pour ces ressources, ainsi que les impacts sur l'environnement et à des impacts sociaux. Après cette parenthèse qui me semble indispensable quand on parle de bas carbone, revenons à nos éoliennes. Que pouvons-nous dire, Marc, pour le futur de cette énergie?
Alors, il est évident que tous les pays, bien sûr, en fonction de leur position, de leur situation géographique, ne bénéficient pas du même potentiel éolien. Les solutions de stockage de l'électricité, les innovations technologiques, les réseaux intelligents sont aussi appelés à jouer un rôle important dans le développement de cette filière. Alors, l'éolien offshore, nous paraît aujourd'hui la principale voie de développement de la filière. En effet, certains pays tels que le Danemark sont aujourd'hui saturés en termes d'installations éoliennes onshore. Dans d'autres pays, comme la France, on ne peut pas imposer facilement de nouvelles implantations aux citoyens. Du fait d'une image un peu négative que l'opinion publique peut parfois se faire des éoliennes, surtout dans, bien sûr, ceux qui habitent dans un environnement proche de ces machines. Alors, construire ces aérogénérateurs au large, là où les vents sont plus forts et surtout plus constants, répond à la fois à des impératifs finalement économiques, énergétiques, mais aussi sociétaux. Et pour la France, je dirais qu'il y a un extraordinaire tissu industriel français, hein, lié en particulier aux activités pétrolières et gazières, qui peut se diversifier dans cette filière offshore, en particulier dans l'offshore flottant, un autre type d'éolienne encore.
Oui, tout à fait, Marc. Il est peut-être utile, Marc, de parler du Royaume-Uni qui a une stratégie assez forte et agressive pour le développement de l'éolien offshore. Faisons un petit point sur les installations déjà existantes et puis parlons un peu du développement envisagé.
Oui, alors le Royaume-Uni installe de plus en plus, il a installé 1760 mégawatts d'éoliennes en mer en 2019, soit 74% de ses installations de l'année et la moitié du marché offshore européen, portant la puissance installée de son parc à près de 10 000 mégawatts au premier rang du parc de l'Union européenne. Et largement devant l'Allemagne ou le Danemark, hein, qu'on cite souvent. Le Danemark, c'est 1700 mégawatts seulement. C'est 5 fois moins. La Belgique et les Pays-Bas. Alors, le marché britannique a été en 2019, c'est la dernière année de référence qu'on a, le premier marché européen avec 16% de ce marché devant l'Espagne, 2300 mégawatts et l'Allemagne, 2000 et un peu plus de mégawatts. Donc, les principales mises en service sont des fermes marines de Beatrice et de Hornsea One, qui est devenu le plus grand parc mondial unitaire avec plus de 1200 mégawatts. Donc le Royaume-Uni est le leader mondial de l'éolien en mer aujourd'hui, pas de problème. C'est ce qu'indique le Global Wind Energy Council. C'est 35% du total mondial. Le total est à peu près de 23 000 mégawatts. Donc c'est une très grosse progression. Le Royaume-Uni est vraiment très bien placé devant la Chine et l'Allemagne. Alors, l'éolien au Royaume-Uni, il faut voir à peu près ce qu'il produit aussi, c'est 25 000 gigawattheures en 2018, soit 47% de la production éolienne du pays et 44% du total de l'éolien en mer aujourd'hui. Donc, la puissance installée du parc éolien en mer atteint 8 000 mégawatts hein, fin 2018, 43% du parc européen devant l'Allemagne. Et beaucoup de parcs, à peu près 6 parcs sont connectés chaque année.
Oui. Marc, donc on voit bien que le Royaume-Uni a une politique décidément très forte en offshore, et où on sait aussi que le facteur de charge, qui est un des paramètres importants pour l'éolien, est relativement élevé. Il est
Et bien
40%,
meilleur, hein.
oui, 40%, voire des fois plus. En guise de conclusion, Marc, donc pour l'éolien, on peut dire que le début de l'utilisation de cette énergie remonte à il y a très longtemps. Approximativement 3000 ans avant Jésus-Christ. C'était les premiers bateaux à voile. Après, les premiers moulins à vent sont inventés par les Perses vers 200 avant Jésus-Christ. Cette technique est ensuite importée en Europe vers le 12e siècle et s'est rapidement développée. Bien sûr, avec les célèbres moulins hollandais et puis en Angleterre qui compte au 19e siècle environ 10 000 moulins.
Et
Mais.
toujours être le champion de l'éolien,
Bah oui! Mes marques, la population sur Terre en 1800 était de moins d'un milliard d'êtres humains, et nous sommes aujourd'hui, 200 ans après, un peu plus de 200 ans après, arrivés à presque 8 milliards. Et donc l'espace disponible et la densité de population font que aujourd'hui, les populations sont plus sensibles à la présence des éoliennes, et notamment sur la Terre. Je pense donc, Marc, comme tu l'as dit, que le futur des éoliennes n'est pas sur la Terre, mais plutôt dans la mer ou les océans, ce qu'on appelle en anglais l'offshore. Et c'est bien ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, qui a développé ses installations de manière impressionnante, avec plus de 3000 éoliennes installées offshore. Bon, Marc, je pense qu'on a presque tout dit sur les éoliennes. Est-ce que tu veux peut-être ajouter quelque chose?
Ben, Paolo, oui, il me semble qu'il faut quand même souligner, être conscient que la production électrique des éoliennes en France et en Europe en général est fortement subventionnée, hein, par la puissance publique. Et donc les investisseurs se précipitent. Les investisseurs, c'est d'ailleurs principalement les compagnies pétrolières aujourd'hui. Parce que l'État leur garantit pendant 20 ans des recettes relativement élevées et stables par rapport au prix du kilowatt, des autres sources d'énergie qui varient beaucoup plus.
D'accord. Bon, donc on peut maintenant passer à l'autre source d'énergie renouvelable et intermittente, qui est le solaire. Nous avons déjà vu que les paramètres facteurs de charge, donc nous avons vu qu'il y a un paramètre important pour les sources d'énergie, n'est pas très bon pour le solaire. Il se balade autour de 15%. C'est-à-dire que par rapport à la puissance nominale, on arrive à produire que 15% du potentiel, ce qui est évidemment relativement faible. Rappelons que pour l'éolien, comme je viens de dire, en terre, il est de 25% et en mer, il est plutôt de 40%. Pour le nucléaire, on arrive à des valeurs bien plus élevées, de 75%. Donc évidemment, la nuit, il n'y a pas de soleil et donc les solaires a ses problèmes. Mais voyons, Marc, comment cette énergie solaire fonctionne?
Ben, l'énergie solaire, globalement, c'est l'énergie, bien sûr, diffusée par les rayons du soleil, des ondes radio aux rayons gamma, en passant par la lumière visible. Tous ces rayonnements sont constitués de photons, les composants fondamentaux de la lumière, et qui sont les vecteurs de cette énergie solaire. Alors, l'énergie solaire, au départ, elle est issue des réactions de fusion nucléaire qui se déroulent dans le soleil. Sur Terre, l'énergie solaire est à l'origine de bien des phénomènes, hein, du cycle de l'eau, du cycle du vent, bien sûr de la photosynthèse du règne végétal.
Oui, bien sûr. On peut donc dire, Marc, que l'énergie solaire est ainsi à l'origine de toutes les formes de production énergétique aujourd'hui utilisées sur la Terre. Par exemple, à l'exception, bien sûr, du nucléaire, de la géothermie ou de l'énergie marémotrice, dont on parlera peut-être dans nos futures émissions. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale.
Thank you.
Après cette pause, nous allons continuer avec notre sujet. L'homme utilise l'énergie solaire pour la transformer en d'autres formes d'énergie, énergie chimique, les aliments que notre corps utilise, énergie cinétique, énergie thermique, énergie électrique ou biomasse. Mais Marc, quand on parle d'énergie solaire, pour la plupart du temps, on se réfère aux panneaux solaires. Donc,
Oui, alors, en fait, il existe plusieurs voies hein, pour faire de l'énergie solaire. Alors, il y a le solaire photovoltaïque qui, effectivement, à travers des panneaux, par exemple sur les toits, transforme directement le rayonnement solaire en électricité. Mais il y a aussi du solaire thermique qui transforme directement le rayonnement en chaleur, en fait, en eau chaude. Ouais. Alors, le solaire dit thermodynamique est une variante du solaire thermique. Cette technique se différencie en cela qu'elle utilise l'énergie thermique du soleil afin de la transformer dans un second temps en électricité.
Oui, l'énergie du soleil donc est reçue en un point du globe, dépend de plusieurs paramètres. L'énergie solaire envoyée par le soleil qui fluctue avec son activité de fusion, la nébulosité, les nuages, le brouillard, etc., qui par exemple importante à l'équateur et plus faible au milieu intertropical. La latitude, la saison et l'heure qui influent sur la hauteur du soleil dans le ciel et donc l'énergie reçue par l'unité de surface au sol. Passons donc en revue, Marc, la façon d'exploiter l'énergie du soleil.
Oui, alors il y a trois grandes familles de procédés de transformation d'énergie solaire qu'on peut distinguer aujourd'hui. L'énergie solaire thermique, donc, qui consiste à utiliser la chaleur du rayonnement solaire en usage direct de la chaleur, chauffe-eau, chauffage solaire, cuisinière aussi, sécheuse, solaire, il y en a pas mal. Ouais. En usage indirect, la chaleur servant pour un autre usage, rafraîchissement, dessalement.
D'accord. En effet, ce type de procédé est utilisé principalement pour le chauffage de l'eau ou des locaux. On utilise pour cela des capteurs thermiques. Il en existe plusieurs catégories, mais le principe est toujours le même. Les capteurs thermiques absorbent les photons solaires et les transforment en chaleur. Celle-ci est ensuite transmise à un liquide ou à un gaz, dit caloporteur, qui les transporte vers un réservoir de stockage de chaleur. Il y a après une utilisation de l'énergie solaire moins connue par les grands publics, qui est l'énergie solaire thermodynamique dont tu as déjà parlé, et qui permet également de produire de l'électricité par voie thermodynamique. Comment cela fonctionne, Marc ?
En fait, ça ressemble beaucoup à une centrale électrique classique dont on a déjà parlé. C'est-à-dire qu'on produit de la vapeur ou du gaz à haute pression qui est envoyé dans des turbines. Et les turbines, en tournant, font de l'électricité, génèrent de l'électricité. Ouais. Alors, ce processus nécessite des températures assez importantes, plus de 250 degrés jusqu'à 1000 degrés parfois. Et donc, on ne peut l'atteindre qu'en concentrant fortement les rayons du soleil avec des miroirs hein, qui convergent sur un fluide caloporteur.
Ah oui, ce procédé, Marc, est intéressant, mais au vu des températures, j'imagine qu'il faut des techniques spécifiques permettant d'atteindre des températures, comme tu dis, de 250 à plus de 1000 degrés, rien qu'avec des rayons du soleil.
Oui, oui. Il faut utiliser effectivement des techniques de concentration importantes des rayons solaires. Alors, il y a des centrales solaires cylindro-paraboliques, le mot est un peu compliqué, avec concentration, donc équipées d'auges paraboliques. Des centrales solaires à miroir de Fresnel, avec une concentration plus linéaire, qui est équipée de lames. Les centrales solaires à tours, avec l'héliostar, envoyant le rayonnement sur le concentrateur. Les paraboles solaires de Stirling, avec une concentration ponctuelle, équipée d'un moteur à air chaud. Alors, elles permettent le stockage d'une partie de l'énergie, c'est ça qui est intéressant, sous forme de sel fondu. Ce stockage en sel fondu permet de diminuer les conséquences problématiques de l'intermittence de cette ressource solaire, en permettant par exemple, ça réussit bien, de continuer à produire de l'électricité même quand on a passé le coucher du soleil.
D'accord.
Alors, un grand chercheur britannique hein, qui est très connu dans la profession, David McKay, il est décédé récemment en 2008, avait estimé qu'un carré de 100 par 100 de kilomètres au Sahara, par exemple, avec ce type de procédé, pourrait fournir 220 000 térawattheures, soit 10 fois plus que toute l'énergie du monde aujourd'hui.
620 000.
Oui. 620 000, ouais, térawattheures, pardon. Ouais. Donc, un chiffre considérable.
Ah, oui.
Tous les calculs depuis ont montré qu'il avait probablement raison, même si, bizarrement, faut le dire à nos éditeurs, l'efficacité des panneaux diminue, c'est bizarre, avec la température. Hein. Ah, ouais. Les panneaux chauds, ça ne marche pas très bien. Alors, la grande question, c'est évidemment qu'est-ce qu'on ferait de cette électricité au centre du Sahara, et en particulier comment on pourrait la transporter vers les marchés.
Bien sûr, bien sûr. On arrive donc au procédé très connu que tout le monde connaît. On voit des panneaux solaires sur les toits des maisons, et donc c'est l'énergie solaire photovoltaïque avec des panneaux, donc comme je viens de dire, qui sont installés sur les toits des maisons ou les toits des immeubles. Le terme photovoltaïque désigne en effet un phénomène physique qui a été découvert par Alexandre Edmond Becquerel en 1839, et dont l'intérêt est qu'il convertit directement l'énergie du soleil en électricité. Marc, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne?
Oui, alors il s'agit d'utiliser des matériaux dits semi-conducteurs, hein, comme le silicium par exemple, qui doit être d'une très grande pureté, mais qui a la propriété intrinsèque de transformer le rayonnement solaire dans ces cellules photovoltaïques directement d'électricité.
D'accord. Mais bon, nous avons vu que cette énergie solaire photovoltaïque ne compte que pour une faible partie de la production mondiale d'électricité. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur comment va évoluer cette énergie, cette source d'énergie?
Je crois que le solaire photovoltaïque a un grand avenir. On voit qu'il y a une baisse des coûts des panneaux solaires. Il est assez simple finalement, assez polyvalent. Il peut fonctionner soit en autonomie, hein, sur une maison et il l'alimente, soit être raccordé à un réseau, c'est plutôt ce qu'on fait en France. Et on peut ainsi répondre aux besoins en énergie électrique d'une maison ou d'une industrie, même d'une petite industrie. Alors la première application, et bien sûr tout le monde le sait, apparue dans le domaine spatial, hein. Il y a longtemps que tous les satellites sont complètement couverts de panneaux solaires, la station internationale la première. D'autres secteurs ont ensuite utilisé cette technologie, les télécommunications, le balisage maritime aérien, l'éclairage et le pompage d'eau, c'est ce qui se fait assez en Afrique. Mais comme le soleil n'est pas visible évidemment en un point de la Terre 24 heures sur 24, tu l'as déjà bien dit, ces applications au solaire nécessitent des systèmes pour compenser cette intermittence et l'utilisation de batteries ou d'autres systèmes qui pourraient assurer le stockage de l'électricité en vue d'une consommation hors période d'ensoleillement. Et on se chauffe aussi quand il n'y a pas de soleil.
Le train continue à circuler. Et oui, Marc, en effet, l'énergie solaire est souvent considérée comme l'énergie de l'avenir. Elle est renouvelable et potentiellement inépuisable, comme tu l'as dit tout à l'heure. Inépuisable à l'échelle humaine, oui, évidemment. L'enjeu est donc de taille dans un contexte de dérèglement climatique et des fortes variations des cours des ressources fossiles. Ces forts potentiels couplés à la nécessité de réduire les gaz à effet de serre font de l'énergie solaire un axe de développement privilégié aujourd'hui.
Oui, tout à fait, tu as raison. Mais il est impératif d'accroître la rentabilité et le rendement de cette énergie. L'investissement initial dans les centrales solaires est toujours important, mais une fois effectivement que l'installation est sur place, qu'elle est amortie les premières années, alors ses frais de fonctionnement sont très faibles ensuite. Ouais. C'est pour ça que de nombreux pays ont mis en place des systèmes d'incitation financière, des subventions, des absences de taxes, des tarifs très avantageux pour le rachat de l'énergie électrique produite, afin d'encourager les premières installations. L'utilisation de ces systèmes de production d'énergie solaire se justifie en plus immédiatement, là où il est très coûteux de transporter des combustibles fossiles ou de raccorder un réseau électrique, comme des appareils isolés. C'est pour ça que dans le marin, les balises, par exemple, ça marche très bien. Dans des zones peu peuplées ou isolées, où on n'ira jamais lier à un réseau électrique. Cependant, son empreinte écologique est loin d'être neutre, car la production de silicium, hein, c'est les capteurs principaux aujourd'hui, il y en aura peut-être d'autres plus tard, sont extrêmement gourmandes en énergie et en matières premières, surtout en charbon. Et il s'agit en fait de casser une molécule de silice, hein, une sorte de sable, qui va générer du silicium, bien sûr, mais surtout beaucoup de CO2. Et on va aussi avoir une industrie qui est extrêmement gourmande en eau, parce qu'il faut purifier ce métal à plus de 99,99% pour avoir des cellules à très bon rendement. Enfin, moi je crois aussi qu'il y a un problème d'empreinte au sol. Elle est importante et elle peut être source de conflits. On le voit ici dans le sud-ouest, hein, avec les agriculteurs ou les forestiers. Et il faut donc mieux effectivement en couvrir les toits, comme tu le précisais, ou les friches industrielles. Hein. Ça devient un peu la mode même de convertir les friches industrielles en usines solaires.
Très bien, Marc. Et que pouvons-nous dire des acteurs industriels majeurs pour le solaire? J'imagine que les Chinois sont très présents et malheureusement l'industrie européenne n'a pas pu être suffisamment concurrentielle, même si en réalité la compétitivité des industries chinoises est parfois biaisée par les aides de l'État chinois.
Oui, tout à fait, Paolo. Les productions mondiales de panneaux solaires, maintenant photovoltaïques, c'est pratiquement la Chine, quoi, à 90%, je crois, qui compte les principaux fabricants en 2018-2019. C'est Jinko Solar, GA Solar, Trina Solar. Ces entreprises, du fait de leur taille mondiale, peuvent répondre aux appels d'offres de plusieurs États en même temps, à la limite. Elles réalisent des économies d'échelle substantielles. Elles reçoivent des subventions publiques, mais tout le monde en a un peu dans le solaire. Et puis, l'énorme avantage de la Chine, c'est sa proximité au charbon chinois, une énergie qui est de très loin la meilleure marché aujourd'hui et qui est, comme je le disais, le produit de base pour faire du silicium.
Et qu'en est-il du solaire purement thermique?
Ben, il reste un marché assez domestique, lui faiblement technologique. Les intervenants sont des sociétés de taille plutôt modeste pour la production des constituants et pour l'installation. Alors, du fait de sa portée strictement industrielle, de son état précoce, le secteur du solaire thermodynamique n'a permis qu'à quelques grandes entreprises de se développer. Ça s'est développé en Europe, plutôt en Espagne. On comprend pourquoi, hein. Le
Bien sûr.
solaire, on le concentre mieux dans les pays où il fait beau,
Il fait
évidemment.
bon.
Et donc, c'est les conditions d'ensoleillement qui sont finalement très importantes. Et donc, on voit arriver en tête avec l'Espagne, le sud de la Chine, l'Inde, l'Australie, extrêmement pushy là-dessus, l'Afrique du Sud, ou les pays du Golfe Persique aussi. Et du Maghreb, le Maroc aussi s'y met.
Dans tous les cas, Marc, il est clair que les aides financières proposées par les États jouent un rôle clé dans le développement de la filière. Elles peuvent prendre des formes de subventions directes ou des tarifs des rachats préférentiels. Et bon, pour les panneaux solaires sur les toits des maisons, qu'est-ce qu'on peut dire?
Pour la France, le marché français était un marché orienté vers des applications photovoltaïques plutôt en site autonome isolé. À partir des années 2000, le marché s'est orienté également vers les applications et de plus en plus raccordé au réseau. Les particuliers, certes, mais aussi les entreprises tertiaires, les PME, les PMI, les fermes, les logements collectifs. Donc des grandes fermes solaires ont vu le jour dans des zones géographiques là où il y a le plus fort potentiel en France, c'est-à-dire sud-est et sud-ouest.
Et donc, quelle est la situation et la contribution à la production d'électricité donc en France?
Alors en France, la production d'électricité photovoltaïque, je crois de 12 TWh en 2019, on a à peu près raccordé 10 gigawatts fin 2019 à l'ensemble du réseau. C'est une progression importante, elle est 10% par an, hein. Ça marche très bien.
Donc, cette production photovoltaïque en France, Marc, évidemment, on ne représente qu'une petite partie de la production totale, environ un peu plus de 2%, disons plutôt marginale, mais en croissance. En Allemagne et en Italie, la production d'électricité photovoltaïque est décidément plus importante. Elle atteint 7% à peu près de la consommation de l'électricité du pays. Bien, voilà, chers auditeurs, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et pour les énergies renouvelables majeures, il nous reste que vous parler de l'énergie hydroélectrique, qui joue un rôle très important sur la continuité de l'approvisionnement électrique. Chères auditrices et chers auditeurs, comme vous le savez, si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez aller sur notre site web www.radiograndciel.fr et aussi nous vous invitons à nous écrire. À bientôt.
À bientôt à tous.